Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien
préféré.
Ici Hélène
et Mélanie. Allô.
Allô. Pour vous raconter des histoires horribles. En ce bel été ensoleillé. Oui. En ce beau 23 juin. En fait, ça va sortir le 23
on
juin.
Pas le 20... Ah, OK.
N'oubliez pas d'aller fêter la Saint-Jean.
C'est vraiment moins intense la Saint-Jean qu'avant. Ouais. Ouais. Nous, venant de Québec et ayant vécu les plaines d'Abraham sans les clôtures.
Ouais, les bonnes années. Là.
Les bonnes années. Où on était... J'avais mon sac Parasco sur mon dos avec mes 4 Smirnoff Ice. J'étais prête à conquérir le monde.
C'était vraiment.
Ah oui, Rochebelle avait un passés. Spot. Toutes les, genre, chaque école, la polyvalente de l'ancienne Lorette avait un spot à côté du gros arbre.
Ben oui, parce que dans ce temps-là, on se retrouvait pas de cellulaire. Là. C'était genre, OK, tout le monde, le gros arbre derrière le Concorde.
OG, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont se faire connaître dans ce
moment. Si vous comprenez de quoi on parle, et vous voilà. Me direz.
J'excuse encore une fois ma voix nasillarde. Je suis en pleine saison d'allergie. Voilà, je suis bourrée de claritin, je suis un peu buzzée. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont me comprendre. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. De toute façon, c'est moi qui raconte aujourd'hui.
Yeah!
J'ai un gros potin quand même
à
te raconter d'abord. Est-ce que je peux dire de c'est qui? Hein? Je vais le lire, puis après ça, je ne me rappelle plus si on peut dire c'est.
OK.
Elle dit, « Salut les girls, je vous aime plein et je viens d'entendre un effrayant crime de potin. Avant la naissance de mon collègue Fred, ses parents avaient une maison à Saint-Léonard. Une belle journée d'été, sa mère se faisait griller dans sa cour et, à moitié endormie, elle a été réveillée par leur gros chien qui grognait et jappait. Quand elle s'est ouvert les yeux, un homme était à côté d'elle dans la cour et la fixait avec un regard fou. L'homme a fini par se sauver parce que le chien était en train de devenir agressif. Elle est rentrée chez elle, a appelé la police de son mari. Et son mari. Bref, un peu traumatisée, mais le temps passe et l'homme n'est jamais revenu. Plusieurs années plus tard, elle était en train de cuisiner pour sa famille en écoutant les nouvelles. Tout d'un coup, la famille entend un gros boum. Elle venait d'échapper le chaudron et elle était sous le choc. Aux nouvelles, il y avait un homme qu'elle avait vu dans sa cour, à un pied d'elle. Son gros chien lui a probablement sauvé la vie parce que l'homme était William Fife.
Non!
C'est insane!
Oh my God, j'ai des frissons!
C'est insane!
Oh my God, le chien, il a tellement sauvé la vie.
Oui, à 100%. Elle a vu Fife.
Aïe, aïe.
Ah, ça me fait capoter.
Si vous n'avez pas c'est qui William Fife, épisode 3, je pense, un des premiers qu'on a fait.
Ah ouais,
c'est 3? Le pire tour en série du Québec.
Oui.
Ouais. Ouais.
J'ai des frissons.
Moi aussi.
T'as-tu un shout-out à faire
oui,
aussi?
Oui, j'avais un petit shout-out à faire à Emma Kind, qui a écrit un livre. Fucking nice. Un livre. En fait, c'est 3 tomes. Ça s'appelle Sauve-le, Désirium, tome 1. Fait que c'est à l'air d'être un roman épique de chevalier d'amour.
Donc, OK.
Good job. C'est pas facile d'écrire un livre. Fait que bravo à toi, Emma Kind.
C'était vraiment radiophonique.
Oui, hein?
Et qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui, Hélène?
OK. Alors aujourd'hui, On se rappelle que j'ai parlé de Dino Bravo il y a quelques semaines.
Mm-hmm. Le lutteur.
Et je pense que c'est un épisode qui a été vraiment très apprécié. Beaucoup de monde nous ont écrit après. Puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, après ça, ils m'ont demandé « Ah, est-ce que tu préfères Chris Benoit? » Qui est un autre lutteur canadien, que ça a fini tragiquement son affaire.
OK.
Fait que je l'avais dans la tête. Puis là, j'ai décidé de me lancer. Alors, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Chris Benoit, a.k.a. The Canadian Crippler.
Ooh! Je connais pas l'histoire. Je suis intriguée.
Je la connaissais pas non plus avant. Alors, mes sources, un article du New York Times, article de Radio-Canada, La Presse, The Toronto Star, et encore une fois, l'émission The Dark Side of the Ring, qui est sur Crave. C'est les épisodes sur Chris Benoit, c'est saison 2, épisode 1 et 2, si vous voulez les écouter. Je les recommande. OK. On est le lundi 25 juin 2007.
Okay.
Ça fit en plus dans la date de l'épisode, en tout cas. 23, 25 jours. Les lutteurs de la WWE se pointent à Corpus Christi, au Texas, pour participer à la WWE Raw, qui était une émission télévisée hebdomadaire qui devait avoir le lieu le soir même. Mais plus la journée avance, plus les organisateurs de la WWE sont inquiets de ne pas voir arriver une de leurs vedettes, Chris Benoit. En fait, ça fait 24 heures qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui. Puis personne n'arrive à le rejoindre. Chavo Guerrero, qui est un lutteur et très bon ami de Chris Benoit, montre aux organisateurs des textos inquiétants qu'il a reçus de Chris et de sa femme tôt dimanche matin, la veille. Les heures passent et la WWE décide de contacter la police de Fayetteville, en banlieue d'Atlanta, dans l'État de Géorgie, où habitaient Chris et sa famille, pour demander d'aller vérifier que tout était beau, genre un welfare check. Mm-hmm. Fait qu'à 16h15, la police rappelle la WWE pour leur annoncer qu'ils ont découvert 3 corps dans la maison de Chris et que la maison est maintenant considérée comme une scène de crime.
Hein?
Que s'est-il passé dans la maison de la famille Benoit?
Je suis intriguée, vas-y.
OK, je retourne en arrière et je te parle de Chris Benoit.
Classique, Hélène.
Classique. Un petit teaser au début.
On te connaît, on te connaît.
Donc, Chris Benoit naît à Montréal le 21 mai 1967. Sa famille déménage ensuite à Edmonton, en Alberta, où il grandit. Il tripe sur la lutte depuis qu'il est tout petit. Il commence à s'entraîner pour devenir lutteur dès l'âge de 17 ans. Il commence sa carrière de lutteur professionnel l'année suivante, en 1985, en signant un contrat avec la Stampede Wrestling. Il était quand même petit pour un lutteur. Il mesurait 5 pieds 11, donc 1,81 m. Ce qui est, aujourd'hui, c'est un peu plus diversifié dans les tailles des lutteurs, mais à l'époque, c'était comme si tu mesurais pas plus que 6 pieds, c'est rare qu'on t'engageait professionnellement, tu sais. Son premier personnage, c'est le Pegasus Kid. Et en 1994, il signe avec le Extreme Championship Wrestling et change son personnage pour devenir le Canadian Crippler.
OK.
Il y a eu différents surnoms dans sa carrière, donc Canadian Crippler, The Rabbit Wolverine, Pegasus Kid, Wild Pegasus, Toothless Aggression.
What? Toothless Aggression?
Aggression, c'est trop drôle. Et son move signature, c'était de monter dans le coin du ring, de se mettre sur le petit poteau, puis de se crisser, genre comme les bras et les jambes ouvertes, là, genre en spread eagle, là, genre en étoile, boum, par terre, comme ça, sur l'adversaire.
J'allais dire sa victime.
Sa victime,
ouais. OK.
Ouais. Chris, il était un homme très sérieux et réservé dans la vie. Mais quand il arrivait sur le ring, il se transformait, il rentrait dans son rôle. C'est son rôle, c'était vraiment le tueur, le Canadian Crippler, le genre, il était comme « moi te tuer ». C'était un athlète intense, et il était vraiment crédible sur scène. Puis Chris, il visait rien de moins que la perfection. Un autre lutteur, Chris Jericho, il raconte qu'une fois, il avait fait un événement avec Chris, puis pendant un des kicks, Chris, il trouvait que lui-même, il avait comme mal réagi, comme reçu le kick. Okay. Chris Benoit, il trouvait qu'il avait mal fait. Fait qu'après le show, Jericho, il va dans les loges, puis là, il trouve Chris en train de faire des squats, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? C'est qui t'a demandé de faire des squats? Puis Chris Benoit est comme, personne, j'ai raté le kick, fait que je fais 500 squats pour me punir.
OK. Il s'auto-punit pour avoir raté une... Okay.
Ouais, sur ce que fait, c'était pas parfait. Mm-hmm. Mais tu sais, genre, personne s'en est rendu compte, tout le monde était content. Genre, mais lui, c'était comme...
Ça en dit long sur le personnage.
Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment un anecdote qui semble bien le décrire. Là.
OK.
Il y a plusieurs collègues qui le décrivent comme l'homme le plus travaillant du monde de la lutte professionnelle.
OK. Très discipliné.
Vraiment.
Ouais. Peut-être probablement un peu trop.
Ouais.
Mm-hmm.
Maintenant, je te parle de Nancy, a.k.a. Woman.
Woman.
Woman. Okay. Donc, Nancy Toffoloni était une très belle femme. Et ça l'a donné que son premier mari, qui était son amoureux du secondaire, adorait la lutte. Donc, elle allait souvent voir des spectacles de lutte avec lui. Et un soir, elle se fait remarquer par un promoteur, parce qu'elle est vraiment belle. Puis, il lui propose de faire un contrat d'une fin de semaine, comme genre de... chicks mannequin? De lutte, là, ouais, genre mannequin. Okay. Là,
tu sais, les dames qui promènent les pancartes?
Ouais, genre.
OK.
Ouais. Fait qu'elle accepte, puis elle adore son expérience, puis ça se transforme en travail à temps plein.
OK.
Puis dans le cadre de son travail, elle rencontre Kevin Sullivan, a.k.a. The Prince of Darkness.
C'est excellent. C'est excellent.
J'aime ça raconter des histoires de lutte parce que c'est tous des personnages incroyables.
The Toothless Aggression.
Mm-hmm.
Top 1.
Top 1, oui. Donc, elle commence à travailler avec The Prince of Darkness en tant que sa Fallen Angel.
OK.
Fait que, tu sais, elle est comme... Elle n'est pas lutteuse elle-même, mais elle fait vraiment partie du spectacle avec son personnage. Woman. Fait qu'elle se met... Ben non, pour l'instant, c'est Fallen Angel. Mais après ça, elle va devenir Woman.
OK,
c'est ça
son... OK, désolée.
Donc, vu qu'elle fait partie du spectacle, elle accompagne partout... puis éventuellement, les deux tombent amoureux. Elle va laisser son premier mari et se marier avec Kevin Sullivan en 1985.
OK, elle fait partie de son équipe, mais ils sont pas encore ensemble à ce moment-là.
Non, au début, non. Elle commence à travailler avec lui, puis okay, là,
c'est
à
juste
force
des collègues. Okay.
De se fréquenter, ben là, ils tombent en amour.
OK.
Donc, éventuellement, son personnage devient Woman.
OK.
OK, incroyable comme nom.
Ouais, c'est ça.
puis, tu sais, beaucoup de témoignages qui disent que, tu sais, Nancy a donné une performance incroyable.
OK.
Il y en a qui dit, tu sais, depuis qu'elle fait plus ça, c'est comme si le rôle avait disparu. C'est dans le sens que maintenant, comme quand il y a une femme sur le ring, c'est une lutteuse. Tu sais, il n'y a plus vraiment genre de personnages comme ça qui sont pas lutteurs.
OK.
T'sais, c'est comme depuis qu'elle est plus là puis qu'elle fait plus, il n'y a comme plus personne qui le fait.
Ouais, ça a comme été la dernière.
Ouais, genre, ouais. Elle faisait fucking bien. C'est ça que tout le monde dit. Donc, on en revient à Chris Benoit.
Mm-hmm.
Qui signe avec la WCW, World Championship Wrestling, fin 95, début 96. Et c'est là qu'il commence à travailler avec Kevin Sullivan et Nancy. Puis Kevin Sullivan, c'était, en plus d'être un lutteur, c'était aussi un booker. Là, ça veut dire qu'un scripteur. Là, donc, il écrivait les histoires.
Mm-hmm.
Puis il s'incluait dans les histoires. T'sais. Donc là, dans les histoires qu'il écrivait, il crée comme une rivalité entre son personnage et le personnage de Chris Benoit. Puis dans ce scénario-là, Chris Benoit, il flirtait avec Woman.
Scénario jalousie.
Ouais, fait que là, c'est pour comme, être dans les personnages. Ben là, Chris et Nancy, ils passaient du temps ensemble pour faire paraître l'histoire comme vraie, genre se tenir la main en public, aller dans des chambres d'hôtel.
Dans la vraie vie?
Ouais, comme à l'extérieur aussi, tu sais.
Ah, le script, il va loin,
ouais,
là.
Le script, il va loin. Genre, j'ai vu une vidéo de Chris Benoit puis Nancy, puis Chris, ils ont genre un verre de vin à la main, puis Chris Benoit est juste comme... What does it feel like to lose the most valuable thing you ever had? comment c'est tu excellent. Te sens à perdre la chose la plus précieuse que tu possèdes?
C'est excellent.
Ouais, c'est vraiment excellent.
Crime, ils vont loin.
Vraiment. Mais là, tu te doutes de ce qui arrive?
Mm-hmm.
Les deux tombent en amour pour vrai.
Mm-hmm.
Et ça, Kevin Sullivan, il l'avait pas prévu dans son script.
Non. Non.
Donc, en fait, tranquillement, ce qui arrive, c'est que Chris Benoit, il devient comme vraiment le confident de Nancy, vraiment comme la personne qui a l'appel quand ça va pas. Puis, ça allait comme pas bien dans son couple avec Kevin à ce moment-là. Même qu'un jour, elle est arrivée voir Chris, puis elle a enlevé ses lunettes de fumée et elle avait un œil au beurre noir.
Oh.
C'est Kevin qui lui avait fait. Donc, pendant ce temps-là, les combats de lutte continuent. Mais là, les deux gars, ils commencent à saillir pour vrai. Fait que, mais un soir, c'était le spectacle Bash at the Beach. Et les deux, ils commencent à se donner des vrais coups. Puis même que Chris, il aurait donné un coup de poing tellement fort sur la tête de Kevin qu'il a percé son tympan.
Mais Bash at the Beach, c'était un show de lutte?
Un show de lutte, oui.
OK. Mais là, eux, ils se battaient vraiment.
Ben, ils se battaient dans le show, genre. C'était comme l'histoire de ils saillissent. Mais là, ils saillissaient pour vrai. Puis là, ils ont commencé à se donner des vrais coups, t'sais. Alors que normalement, c'est pas des vrais coups dans la lutte.
T'sais. Jusqu'à y péter un tympan.
Oui. OK. Et là, le match se termine, mais apparemment que là, il aurait continué à se battre backstage. Genre, ça allait plus.
Ça allait pas.
Donc, finalement, Nancy divorce de Kevin en 1997.
Ils sont mariés?
Oui, elle était mariée avec Kevin Sullivan depuis 1985. Oh. C'était son deuxième mari.
Tu l'as-tu dit ou j'ai juste pas entendu?
Oui, je l'ai dit.
Oh, sorry.
Ouais. Donc, elle va divorcer puis éventuellement se marier avec Chris et elle va porter le nom de Nancy Benoit.
OK. Fucking dans l'histoire, c'est bon.
Bon, hein? Alors, tout va bien pour Chris. Il a trouvé l'amour, sa carrière va bien. En 2000, il signe un contrat avec la WWE, ben, qui était WWF à l'époque. Et la même année, Nancy donne naissance au petit Daniel. Mm. Faut dire que Chris, il avait aussi deux enfants, David, 14 ans, et Megan, 10 ans, d'un mariage précédent. Puis les deux, ils habitaient en Alberta avec leur mère. Mais ils venaient quand même souvent visiter leur père. Et son fils, son plus vieux, David, il était super proche de son petit frère Daniel. Les deux s'adoraient. Puis avec Nancy aussi, il était proche. Tu sais, il dit comme chez nous, il n'y avait pas le mot step. Genre, c'était pas ma belle-mère, c'était, c'était ma mère. Et tout le monde écrivait Chris comme un super papa. Mais, même si tout semble bien aller, c'est pas toujours aussi beau qu'on pense derrière les portes closes. Et en 2003, Nancy, elle demande le divorce et elle porte plainte à la police contre Chris pour violence conjugale. Et elle aurait même demandé une interdiction de l'approcher, genre restraining order.
Mm-hmm.
Mais elle finit par revenir sur sa décision. Elle laisse tomber sa plainte et elle revient avec Chris. C'est le seul incident Plus sa sœur a témoigné dans le Dark Side of the Ring, là, la sœur de Nancy. Puis elle, genre, tu sais, Chris, il m'a appelé moi. Puis il m'a supplié, genre, passe-moi Nancy, tu sais, il faut que j'y parle. Nanana. Puis genre, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a reparlé à Chris. Puis qu'éventuellement, ils sont revenus ensemble. Puis genre, évidemment, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que j'aurais pas dû. Mais tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, c'est le seul instance de violence conjugale qui est.
Rapporté.
Est-ce qu'il y en a eu d'autres?
On sait pas.
On sait pas. Je te parle d'un autre personnage.
OK.
Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, c'est le meilleur ami de Chris. C'est un lutteur aussi. Ils travaillent beaucoup ensemble. En fait, au début, apparemment, qu'Eddie, il trouvait Chris un peu gossant, puis genre, il était comme, ah, j'ai pas envie de travailler avec lui. Puis, tu sais, il s'était comme fait bookés ensemble, genre dans un match. Puis finalement, les deux se sont vraiment appréciés parce que les deux, ils travaillaient très fort puis les deux étaient très perfectionnistes. Fait qu'ils se sont comme vraiment rejoints là-dedans. Fait qu'il y a vraiment une super belle amitié qui se développe entre les deux. Vraiment, vraiment forte. C'est des confidents, des bros, genre tout. Eddie était quand même assez religieux. Puis Chris, lui, il était pas du tout... quand il a connu Eddie, mais Eddie lui a donné une Bible à Noël. Puis après ça, Chris, il la gardait toujours avec lui. Dans les années 2000, Eddie, il avait comme plusieurs blessures physiques, mais au lieu d'arrêter la lutte puis de prendre du temps pour se guérir, mais il a commencé à s'auto-médicamenter avec de l'alcool et des drogues. Ça devient éventuellement un problème. Et, tu sais, genre, il se fait prendre plusieurs fois à conduire sous, drogué, genre, par la police. Il fait même 3 overdoses à laquelle il survit. Et même que sa femme, Eddie, les 2 premières overdoses, elle a appelé les secours. Puis là, la 3e, elle l'a laissé sur le divan. Elle est partie porter les enfants à l'école. Puis elle s'est dit, si c'est son heure, il va partir. Puis sinon, il va survivre.
Hein?
Il a survécu. Mais c'est quand même non-assistance à une personne en danger.
Ben c'est ça, j'allais dire, t'as pas le droit de juste laisser quelqu'un crever.
Mais tu sais, à quel point elle était à bout, là?
Ouais.
Tu sais, elle a dû...
Ah, je comprends à 100%, mais...
Ouais, quand même. À ne pas faire, mais tu sais, ça montre à quel point genre, elle a dû tout faire pour essayer qu'elle arrête. Puis, genre, ouais, ça, être comme...
T'as des enfants en plus. Ouais.
C'est comme, OK, tu veux scraper ta vie, ben go, genre. Comme. Donc, pas longtemps après, à un moment donné, il se pointe comme trop intoxiqué au travail pour performer, pour travailler. Donc, il se fait renvoyer de la WWE. C'est comme, va te gérer. Mm-hmm. Puis, il vient nous voir après. Donc, finalement, c'était comme une bonne affaire parce que la pire chose qui pouvait arriver, qu'il se fasse renvoyer, était arrivée. Fait que là, il était comme, OK, j'ai atteint le fond du baril, j'ai plus rien à perdre. Et je me prends en main. Fait que là, il est allé en désintox, il a arrêté de consommer, puis après ça, il a remonté, il a refait peu à peu sa vie, retrouvé confiance avec sa famille, il a retrouvé sa job à la WWE.
OK.
Et en 2004, Chris et Eddie gagnent la WrestleMania ensemble, qui était un événement annuel, qui est genre le plus gros match de lutte mm-hmm. au monde. Fait que c'est vraiment l'apogée de leur carrière, aux deux. Ils gagnent la WrestleMania ensemble. Ensemble. Ils auraient peut-être dû prendre leur retraite à ce moment-là. Le 12 novembre 2005, Eddie, son neveu Chavo Guerrero et Chris Benoit sont à Minneapolis pour un événement de lutte. Chacun a sa chambre d'hôtel, fait que le soir, ils disent « OK, bonne nuit », puis on se retrouve demain matin à 7h pour s'entraîner. Le lendemain matin, Chavo Guerrero il reçoit un appel de la réception de l'hôtel qui dit qu'ils sont inquiets parce que son oncle n'a pas répondu à son wake-up call. Puis quand ils vont cogner à la porte, personne ne répond. Fait qu'il demande « Pourrais-tu venir avec le gardien de sécurité? On va essayer de rentrer dans la chambre. » Fait que Chavo, il va. Puis là, il arrive à la chambre, puis elle est comme barrée avec la petite chaînette mm-hmm. là, de l'intérieur. Fait qu'ils prennent comme un la gros... Ouais, il la coupe. Il ouvre la porte. Et Chavo, il voit Eddie par terre sur le plancher de la salle de bain. Il avait... il était en bobette. Il avait sa brosse à dents dans une main. Chavo, il a couru vers lui. Il l'a pris dans ses bras. Il l'entendait essayer de respirer comme vraiment difficilement. Il était encore en vie. Mais après quelques minutes, il est rendu l'âme, il est mort dans les bras de son neveu.
Hein?
Eddie Guerrero avait 38 ans. Il était au sommet de sa carrière. Et la cause officielle du décès est un problème de cœur. Tu sais, problème de cœur à 38 ans, on s'entend que je pense qu'il avait poussé son corps trop loin ouais. avec tu sais, les overdoses qu'il avait faites, la drogue, la, tu sais, son métier. Qui était,
ah, c'est l'accumulation.
Comme, l'accumulation
tu sais, d'une vie de... De débauche et d'excès.
Oui, c'est ça, de pousser son corps aux limites. Là.
À l'extrême.
Ouais. Puis t'sais, même dans les semaines avant, il y avait quand même des signes que quelque chose clochait. Là, genre, t'sais, que ça arrivait plusieurs fois qu'il s'endormait au milieu d'une phrase. Quand même weird.
C'est le truc qui arrive quand t'as fait des AVC?
Genre.
OK.
Ouais.
Ce qui peut arriver dans la lutte souvent, là. Genre.
Ouais. Ouais. On s'en reparle plus tard.
Oh!
et là, alors que Chavo est encore avec le corps de son oncle, Chris, il appelle. Puis il dit « Hey, what's up? Vous êtes où? » Puis Chavo, il dit « Eddie est mort. » Puis Chris, là, il a juste comme hurlé. Et ça l'a, là, ça l'a brisé complètement. Dévasté, le mot est faible. Genre, c'était vraiment un point tournant dans sa vie. À partir de la mort de son meilleur ami, ça va plus.
OK.
Qui tombe dans une profonde dépression. Qui arrive à cacher à beaucoup de monde, mais t'es pas assez proche.
Parce que c'est quand même une personnalité publique aussi. Ouais,
quand même, vraiment.
Ça doit être difficile de cacher une dépression.
La veuve de Eddie, tu sais, parce que pendant le premier mois où Eddie est mort, la Nancy est allée vivre chez la veuve pour genre l'aider avec les enfants, puis genre, tu sais, j'ai pas noté son nom, en tout cas, la veuve de Eddie a dit, tu sais, elle m'a tellement, c'était mon ange, là, genre, elle venait s'occuper de moi, Mané est venue genre me sortir du lit, elle a dit, tu t'en vas prendre une douche, puis après ça, on s'en va déjeuner, comme, tu sais, genre, get up, faut que, tu sais, prends-toi en main, t'as des enfants qui ont besoin de toi.
Mm-hmm. Mais leur famille devait être quand même connectée pas mal.
Oui, c'est ça, ils étaient vraiment proches. Les deux gars étaient meilleurs amis, puis les femmes aussi étaient
super amies. Inséparables. Ouais.
Fait qu'à cause de ça, elle était chez les Guerrero. Fait que Chris Benoit, il était là souvent, puis la veuve à Eddie a dit qu'elle l'a retrouvé plusieurs fois couchée sur le lit du côté à Eddie en train de brailler, là, genre inconsolable. Oh. Une autre fois, elle l'a retrouvé dans la salle d'entraînement, genre de Eddie dans la maison, genre en train de brailler. Il y a un soir où la WWE, ils ont fait une soirée hommage à Eddie Guerrero et Chris Benoit, il parle, puis tu sais, il braille à la télévision, là, genre. Mais tu sais, c'est quand même spécial de voir cet homme-là, genre, de virilité extrême, de, tu sais, juste comme...
T'es habitué de le voir péter des gueules, puis d'avoir son persona de... de meurtrier.
C'est ça, le Canadian Crippler, là, en train de brailler son meilleur ami, tu sais. De dire « je t'aime », puis tu sais, comme, c'est vraiment spécial. Donc, il aurait dû prendre du temps off, on s'entend?
Ben, c'est ça. Ouais. C'est triste parce que là, on parle de lui, mais genre, tu sais, on sait où ce que tu t'en vas après. Fait.
Ouais. Ouais, tu t'en doutes.
C'est weird.
Ouais. Donc, Nancy était bien consciente que Chris, ça allait pas. Elle voulait qu'il prenne du temps off, mais il continuait à travailler. Puis, à chaque endroit qu'il arrivait pour des shows de lutte, il était comme, la dernière fois que j'étais ici, c'était avec Eddie. T'sais, genre, tout lui rappelait Eddie. Genre, il était juste tout le temps là-dedans. Puis, plus le temps passait aussi, plus il devenait comme parano. Genre, il disait que il changeait de voiture ou de chemin pour aller au gym. Genre, parce qu'il avait comme peur qu'on le suive. Il était vraiment impatient, vraiment irritable. Lui et Nancy chicanaient tout le temps pour rien.
C'est drôle, il agit comme si son ami avait été assassiné. Ouais. Comme là, je peux comprendre que t'as peur, mettons, parce que t'étais là avec lui, mais là, pas ça du tout.
Non, c'est pas ça qui s'est passé.
OK.
Fait qu'il était juste en crise contre la vie, contre tout. Puis à un moment donné, ses proches lui avaient acheté un journal pour qu'il puisse écrire à Eddie. Puis ça l'avait aidé
un peu.
Après ça, il s'était ouvert un peu. Mais bon, pas assez. Donc, malgré ce petit éclairci, il continue à s'enfoncer et à rapetisser son monde de plus en plus. T'sais, on le voyait de moins en moins sortir de chez lui. T'sais, à l'extérieur, t'sais, comme il travaillait, il allait chez lui, mais t'sais, il parlait moins à ses amis. Il était comme vraiment en train de s'isoler du monde. Donc, cette spirale descendante nous mène à la fin de semaine du 22 juin 2007. La fin de semaine fatidique. Vendredi 22 juin, Chris, Nancy et Daniel font un barbecue autour de leur piscine. Le samedi, Chavo Guerrero et d'autres collègues sont à Laredo, au Texas. Chris est supposé venir les rejoindre pour un événement ce soir-là. Mais Chris y appelle Eddie pour lui dire que Nancy et Daniel ont fait une indigestion alimentaire. Fait qu'il pourra pas être là. Eddie dit « OK, take care, mais oublie pas, demain on a le pay-per-view à Beaumont, Texas. » Chris dit « j'ai changé mon avion, je vais arriver à 8h demain matin. » Chavo, il va aller le chercher à l'aéroport. « OK, parfait. » Puis là, Chavo, il dit, tu sais, Chris, il sonnait vraiment comme fatigué et groggy. Je trouve groggy, il n'y a pas de bonne traduction en français, là. Comme un peu, comme s'il était un peu sous, genre, un peu...
Pas trop lucide.
Ouais, c'est ça. Ça, il dit, je vais rester pour m'occuper de ma famille. Puis il finit la conversation en disant, Chavo, I love you. Ce que Chavo trouve vraiment bizarre.
OK. D'habitude, il dit pas ça,
mais... Ouais. Fait que dans la nuit du samedi au dimanche, à 5h30 du matin, Chavo, il reçoit un message texte de Chris qui dit « The dogs are in the enclosed pool area and the back door is open. » Fait que les chiens sont dans la partie fermée à l'extérieur, à côté de la piscine, puis la porte d'en arrière est ouverte. Il est tout endormi, 5h30 du matin, « What the fuck? » 30 secondes plus tard, il reçoit le même message texte, mais du téléphone de Nancy. Puis après ça, il reçoit un autre texto de Chris, mais juste avec son adresse. Genre là, Chris envoie son adresse. OK. Fait que Chavo, il dit que c'est weird, mais... OK, genre, je vais demander des explications à Chris quand je vais aller chercher à l'aéroport dans genre 3 heures. Puis là, le lendemain au déjeuner, il parle à son collègue Scott Armstrong, qui était l'arbitre, puis... Et Scott, il dit qu'il a reçu les mêmes textos, exactement.
OK.
Vraiment weird. Mais là, bon, quand il va le chercher à l'aéroport, en fait, Chris...
Il est pas là.
Il a pas pris l'avion. Il essaie de rejoindre, pas de nouvelles. Fait que ça, c'est le dimanche. Fait que là, on arrive au lundi, où j'ai commencé le début de l'histoire. Donc, Chavo et ses collègues arrivent à Corpus Christi. Puis là, le agent, je sais pas c'est quoi le titre en français, le head of talent de la WWE, il demande « You, Chris? » Ça fait comme 24 heures qu'on essaie de rejoindre. Puis là, Chavo, il dit « Nous non plus, on n'arrive pas à rejoindre. » Puis il regarde les textos qu'il m'a envoyés. Puis le gars, il a fait comme « What? Pourquoi tu m'as pas montré ça avant? » Puis c'est là qu'ils ont appelé la police puis qu'ils ont envoyé la police faire la vérification. Alors, la découverte. Donc, le 25 juin 2007, il y a un policier et sa partner policière qui se rendent chez les Benoît tout bonnement, en se ne doutant pas que ça va être une scène horrible. Donc, en arrivant, il voit la voisine, puis il demande « Ah, est-ce que tu as vu tes voisins récemment? » Elle dit « Non, pas depuis 3-4 jours. » Puis là, dans la cour des Benoît, il voit qu'il y a les deux gros chiens qui aboyaient. Fait qu'il demande à la voisine « Ah, tu pourrais-tu comme aller les gérer juste pour que nous, on puisse aller faire notre vérification sans que les chiens ils nous dérangent? » Et donc, elle dit « Oui, pas de problème, je les connais bien, c'est moi qui les nourris quand ils sont pas là. » Fait que là, elle saute par-dessus la clôture, puis elle disparaît. Allez voir les chiens. Puis là, ça me prend comme quelques minutes, là, les policiers sont comme...
C'est un peu long. C'est elle qui a découvert? Non.
Elle sort en courant, en criant « Daniel est mort, Daniel est mort. » Fait que là, les policiers sont comme « Oh, oh, OK, notre petite visite de routine vient de prendre une twist. »
Défonce la porte.
Pas mal plus grave. Fait que là, ben, ils savent que la porte arrière est ouverte.
Ah oui, c'est vrai.
Fait qu'ils rentrent par la porte arrière. Silence total dans la maison. Et là, tout de suite, l'odeur.
Mm.
Ça sent la mort.
Ils dirigent... Ça fait 24 heures. Attends. Ça fait 24 heures? À peine?
Ben, je te détaille
ça. OK, excusez. Ouais.
Donc, s'il se dirige rapidement, il trouve la chambre de Daniel. Et il retrouve Daniel, 7 ans. Couché sur le ventre dans son lit.
7 ans.
7 ans. La policière demande, est-ce que je dois commencer les manœuvres de réanimation? Son partner, il est comme, non, non. Non, il est mort. Clairement, ça faisait longtemps. Puis, à côté de son corps, il y avait une Bible qui était déposée. Il touche à rien, puis il continue à faire le tour des pièces et des chambres. Là, dans la chambre des maîtres, par terre, il retrouve le corps de Nancy Benoît, 43 ans. Elle avait les mains et les pieds liés avec du duct tape.
Ah!
Puis une Bible était déposée à côté de son corps.
Un gosse avec ses Bibles?
Oui, vraiment.
Comme s'il va, il les envoie au paradis, genre?
Pas clair. Il descend ensuite au sous-sol, dans la salle d'entraînement. Il retrouve Chris Benoît, 40 ans, qui s'était pendu avec une poulie d'halter. Il retrouve pas de lettre de suicide dans la maison, mais des semaines plus tard ou des mois, je sais pas exactement quand, mais dans une autre Bible qui était dans la maison, il retrouve un petit mot à la main de Chris qui dit « Je me prépare à quitter cette terre. » C'est comme un peu...
prémédité.
Ouais. L'autopsie révèle que Nancy, elle serait morte par asphyxie le vendredi soir.
Hein?
Chris l'aurait étranglée avec le cordon du téléphone, alors qu'il était sur elle en pressant son genou dans son dos. Ça n'a pas de sens.
Pendant qu'il est ligoté.
Ouais. Imagine. C'est genre l'homme de ta vie. C'est fucké.
Ben, c'est une toxicose extrême.
Daniel,
non.
Il serait seulement décédé le samedi matin. Donc, il aurait tué Nancy le vendredi soir. Ben, dans son sang, on retrouve des traces de Xanax. Fait qu'on pense que Chris lui aurait donné des calmants. Puis qu'après ça, il l'aurait asphyxié dans son lit, je pense qu'avec un oreiller.
Pourquoi?
Chris, lui, il serait mort seulement le dimanche. Fait que presque 2 jours. Après Nancy. Fait qu'il aurait passé environ 48 heures avec le corps de sa femme et 24 heures avec le corps de sa femme et de son fils dans la maison.
Arc!
C'est fucked up. Genre, quand il a parlé à Chavo, les deux étaient morts. Là. C'est vraiment weird. Puis, dans les dernières heures, on voit que Chris y aurait cherché sur Internet l'histoire du prophète Élijah et de la résurrection d'un enfant mort.
D'où la Bible.
Ouais.
Les Bibles.
Mmh. Puis ensuite fait des recherches sur la façon la plus simple de se casser le cou.
La résurrection d'un enfant mort, ça veut dire qu'il a regretté à quelque part. Là.
Ben, c'est sûr. T'inquiète, ouais. Il a comme eu le temps de regretter son geste. Ouais. Puis dans la maison, il retrouve aussi beaucoup de bouteilles d'alcool vide. Là.
Ouais. J'aurais quasiment aimé mieux qu'il n'ait pas eu le temps de se pendre pour qu'il ait pu vivre avec les conséquences de ses gestes.
Oui. Il est parti de la façon facile. Et là, gros faux pas de la WWE.
Hein?
Parce que le lundi soir, donc la journée même de la découverte des corps, ils ne savaient pas encore qu'est-ce qui s'était passé. Il savait juste que les trois étaient morts, mais il savait pas que c'était un double meurtre suivi d'un suicide.
OK.
Fait qu'ils font une soirée hommage à Chris Benoit.
Oh non!
Au lieu de faire l'événement qui était prévu ce soir-là.
Oh non!
Plein de témoignages touchants de vedettes de la WWE, genre qui pleurent, qui sont comme Chris, t'es un good guy.
Mais ils ont même pas la version de l'histoire?
Non.
Ils pensent que c'est Nancy qui a fait tout ça? Qui est décédée?
Je sais pas à quoi ils pensent, là, mais ils pensent pas au pire. Ils sont comme, moi je connais Chris, c'était genre un bon gars, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Ça leur a comme pas traversé l'esprit que...
C'était lui.
Ouais. C'est fou. Et là, le lendemain, quand ça sort dans les médias, que le public apprend que...
Et t'as l'air cocombe pas à peu près.
Eh oui, là, les dirigeants de la WWE sont comme « fuck ». Puis tout le monde qui a fait des témoignages sont comme « moi, j'ai l'air de quoi d'avoir humanisé un tueur, tu sais ». Comme... Fait que ce soir-là, le mardi soir, l'événement de la WWE à la télé, elle commence avec un mot de Vince McMahon, le dirigeant, là, le mime. Qui explique que la veille, il n'y avait pas les dernières informations et que s'il avait su, il n'aurait pas fait l'hommage à Chris Benoit. Et qu'à partir de ce moment, le nom de Chris Benoit ne serait plus prononcé. Puis après ça, l'événement commence.
Non, présenter l'événement quand même.
Ouais, après ça, on fait comme le match de lutte. Non. Mais ils ont juste commencé par ça pour dire genre. On s'est trompé. Maintenant, on n'en parle plus. Fait que ça a comme vraiment passé, genre.
Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Ouais, ouais.
Il est trop tard.
Ben oui. Mais après ça, là, la WWE, ils ont juste fait genre disparaître toutes les traces de Chris Benoit, genre partout. Là. Genre, il n'y avait plus son nom nulle part. Puis même, genre, toutes les gens qui travaillaient pour la WWE avaient même pas le droit de parler de Chris Benoit en entrevue, genre. C'est juste comme tabou. Si tu veux garder ta job, tu fermes ta gueule, tu parles pas de ça. C'est comme...
OK.
Oui, puis là, il y a un petit mystère à Wikipédia. Je suis tombée là-dessus en faisant mes recherches. Parce que la mort de Nancy Benoit a été annoncée sur Wikipédia quelques heures avant la découverte des corps.
Hein?
Ouais. Genre, ça disait... Dans le fond, il y a l'article... consacré à Chris Benoit a été modifié le lundi midi, alors que les corps ont découvert lundi après-midi. Puis ça disait que le lutteur n'a pas participé à son dernier combat 2 jours plus tôt en raison de la mort de sa femme.
Ce serait lui qui serait allé faire ça?
Donc là, finalement, on check l'adresse IP, ça amène un ordinateur à Stamford dans le Connecticut. Puis finalement, là, quand ça sort dans les médias, tout le monde sont comme, qu'est-ce qui se passe? Mais là, l'auteur anonyme, il est réapparu sur Wikinews, puis il explique, confus, que son commentaire, en fait, c'était une énorme coïncidence, rien de plus. Il dit, je lisais sur le web des rumeurs, des spéculations autour de ce sujet-là, puis une d'elles disait que sa femme serait morte, puis c'est pour ça qu'il serait pas allé au combat. Puis il l'a posté sur Wikipédia avec aucune preuve.
Ça montre à quel point Wikipédia, c'est pas une source fiable.
Non.
N'importe quel coco peut aller écrire n'importe quoi.
Mais souvent, c'est rectifié.
Oui, oui, ouais. Mais quand même.
Mais
faut toujours vérifier.
Mais oui, c'est ça. Fait que c'est quand même fucked up.
Hein?
Ça l'a juste comme mêlé la police bien raide au début. Là.
Je pensais que t'allais dire que c'était un truc de genre décalage horaire, que c'est quelqu'un dans une autre partie du monde qui l'a écrit.
Ah ouais, mais non.
Quand tu l'as pas. Mais même là, je pense que ça marchait pas. Je commencerai pas à calculer parce que...
Ah oui, on se saisira pas.
C'est bien drôle, ce mystère-là.
À vous. OK. Et là, dès que ça sort dans les journaux, là, tout le monde parle de la roid rage. Qu'est-ce que c'est, la roid rage? C'est un état secondaire de rage produit par les stéroïdes.
Hein?
Fait que, dans les médias, on met ça sur la faute de la roid rage. Fait que, des stéroïdes, en fait. Donc, effectivement, Chris Benoit, il avait quand même abusé des stéroïdes. Son autopsie révèle qu'il y avait 10 fois le niveau normal de testostérone. Il y avait aussi la présence de drogues pour combattre l'anxiété et des antidouleurs. Et en fait, on apprend qu'il prenait des stéroïdes depuis le secondaire. Quand même, toute sa vie. Et en analysant les textos entre lui et Nancy, on voit que Nancy était vraiment exaspérée de sa consommation abusive de stéroïdes. Genre des textos qui disent « Get off the crap you're on, it's making you passive-aggressive and I don't need the abuse. »
Oh my God.
« Arrête d'en prendre, ça te rend passif-aggressif, j'ai pas besoin de cet abus-là. » un texto qui dit aussi « The wellness program is a joke ». Parce que la WWE, il y avait un wellness program. Fait que dans le fond, qui testait les athlètes pour vérifier qu'ils prenaient pas de stéroïdes ou d'autres drogues.
Ben là, Chris, clairement.
Il a tout passé les tests. Là.
Ouais, c'est fait ça. Clairement, ça marche pas.
Non, clairement, ça marchait pas.
Aujourd'hui, ça doit être différent.
Oui. Oui. En fait, genre en août 2007, soudainement, il y a 10 lutteurs qui se sont fait
flaguer.
Ben ouais, comme expulsés de la WWE. Ben, ils sont venus après, le même temps, pour un certain temps. Là. Ils se sont fait suspendre.
Suspendre.
À cause de qu'ils avaient testé avec des stéroïdes. En août. Fait que genre.
Juin, juillet.
Ouais, soudainement.
En ben galop.
Ouais, c'est ça. Et en 2009, le médecin de Chris Benoit, Phil Astin, il a écopé de 10 ans de prison pour avoir prescrit illégalement des drogues à ses patients. Il a, tu sais, c'était pas juste Chris Benoit, là. Il y a au moins deux de ses patients qui sont morts par overdose. Apparemment qu'il prescrivait, il donnait des prescriptions sans effectuer d'examen physique, puis il pouvait prescrire jusqu'à 4 drogues simultanément à un patient. Genre, ben, je ne m'y connais pas tant là, mais Percocet, Oxycontin, Vicodin et Adderall. Et il aurait prescrit à Benoit un approvisionnement de 10 mois de stéroïdes anabolisants qu'il renouvelait chaque 3 ou 4 semaines.
Fait que ça veut dire qu'il les empilait.
Ouais, fait que du stock pour 10 mois, mais il prenait en 4 semaines. Genre. Si je comprends
mais
bien.
Mais ta pharmacie, elle fait pas comme yo.
Ça a l'air que non.
10 mois.
Ouais.
Je sais pas c'est quoi les quantités, mais...
Ouais, je sais pas. Mais...
Tableau, ça sonne pas...
Mais tu sais, 10 fois le rationnel. Niveau de testostérone normal, c'est quand même...
Ceci explique
ça. Ça me semble assez élevé. Donc, c'est ça. La WWE, ben, se défend. Elle dit que c'était pas la roid rage, que c'est un geste calculé d'un homme qui allait pas bien. Ce qui est pas fou, là. Il y a bien du monde... Il y a bien des hommes qui ont commis des familicides puis qui ne consommaient pas de stéroïdes. Mais il y a une autre théorie... / facteur intéressant. L'encéphalopathie traumatique chronique, l'ETC, ou en anglais, Chronic Traumatic Encephalopathy, CTE.
Qu'est-ce que c'est?
Oui, l'encéphalopathie traumatique chronique est une maladie dégénérative du cerveau, progressive, causée par des traumatismes crâniens répétés, comme une commotion cérébrale, souvent observée chez les athlètes. Elle se caractérise par des troubles de l'humeur, du comportement, de la cognition et peut évoluer vers la démence. Au moment de la mort de Chris, il y avait déjà 4 cas connus dans la NFL qui avaient entre autres deux suicides, puis un qui c'était un suicide avec course policière qui a fini en accident.
OK.
Là, je te parle de Chris Nowinski, qui lui, c'est un ancien lutteur qui avait pris sa retraite prématurée de la lutte à cause de commotions cérébrales à répétition. Puis depuis, il s'était intéressé aux recherches des impacts des commotions cérébrales sur le cerveau, au CTE. Et en 2007, Nowinski est en train d'écrire un livre là-dessus. Puis environ 6 mois avant le drame, Nowinski, il y avait une conversation avec Chris Benoit. Puis Chris Benoit, il posait des questions sur le livre qu'il écrivait, puis il avait demandé à Nowinski... Toi, combien de commotions t'as eu? Nowinski, il dit, moi, j'en ai eu 6, et toi? Puis Chris Benoit, il a répondu, plus que je peux en compter. Chris, il avait même laissé son numéro pour qu'il rappelle pour parler de ça. Mais bon, au moment où il avait rappelé, Chris, il pouvait pas. Puis en tout cas, finalement, la discussion n'a jamais eu lieu. Donc, peu de temps après la mort de Chris, Nowinski contacte le père de Chris pour lui offrir ses condoléances et lui parler de sa théorie de l'ETC qui aurait pu affecter le cerveau de Chris. Qui pourrait expliquer en partie ses agissements. Donc, le père de Chris, évidemment, il cherche une explication pour comprendre comment son fils a pu faire ça. Fait qu'il donne l'autorisation à Nowinski d'examiner le cerveau de Chris.
OK.
Ben, pas Nowinski directement, mais des, non, mais des médecins. Équipe, là. Genre, ouais. Donc, en juillet 2007, là, donc vraiment rapidement, un mois après les événements, le cerveau de Chris est analysé, puis... Les résultats des tests montrent que le cerveau de Chris Benoit était si sévèrement endommagé qu'il ressemblait au cerveau d'une personne de 85 ans atteinte d'Alzheimer.
Hein?
Aïe. Donc, son cerveau avait atteint une forme avancée de démence qui peut contribuer à de graves problèmes de comportement. Des zones de son cerveau qui peuvent influencer la gestion des émotions qui étaient affectées. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi il était en dépression sévère, pourquoi il n'était pas capable de contrôler ses pleurs après la mort de Eddie Guerrero. La recherche sur Chris Benoit a conduit plus tard à la découverte d'une encéphalopathie traumatique chronique chez de nombreux autres lutteurs.
Toujours en vie.
Toujours en vie, ouais. Et en mars 2009, un deuxième lutteur, canadien aussi, de la WWE, Andrew Martin, il est mort sur son divan en mangeant de la pizza. Genre vraiment au milieu de son repas. Et son cerveau a été examiné, puis le coroner a conclu que la mort est attribuée à l'ECT.
Comme ton cerveau est comme, non, man, j'en ai assez, ciao, bye.
Ouais.
C'est la fin, là. Est
tellement endommagé que... Fucked up.
Mais, encore, oh, tu sais, la lutte toute ta vie, des stéroïdes toute ta vie, des commotions après commotions après commotions. Après ça, tu vis le choc de ta vie avec ton ami qui meurt.
C'est beaucoup de facteurs. C'est sûr
que ça allait pas bien finir. On souhaite pas qu'il tue sa femme et son enfant, mais...
Mais...
Ta!
Ouais. Donc, évidemment, avec tout ça, ça remet vraiment en question, genre, la lutte au complet, là, comme les découvertes. 100%. C'est-à-dire que tous les lutteurs, tu sais, les commotions, c'était tellement commun.
Mm-hmm.
C'était pas du tout suivi. Il n'y avait c'était pas de normalisé, suivi. Genre. C'est ça. Genre, t'avais une commotion, tu fermes ta gueule, tu continues. Là. C'était pas genre, tu vas voir, tu prends une pause, tu vas voir le médecin. Non, non, genre, les lutteurs, c'était juste.
C'est ça. Là, t'as qui a parlé, lui, il savait qu'il en avait fait 6.
Mm-hmm.
Lui, il était comme, mais moi, je les ai jamais comptés parce que sûrement que dans sa tête à lui, c'était normal.
Oui, c'est ça. T'sais. C'était.
Ça fait pas si longtemps, là, 2007.
Non, c'est ça. Puis, il y a une chose que les lutteurs de la génération de Chris faisaient, puis que Chris faisait vraiment beaucoup, c'était le chair shot, qui consiste à se faire donner un coup de chaise en plastique sur la tête.
Puis, tu sais. Oui, on l'a vu souvent.
Puis, c'est comme. Tu sais, c'était comme un badge d'honneur, là, genre, de le faire. Là. C'est comme, OK, tu fais le chair shot, genre, yeah.
OK.
Puis, heureusement, aujourd'hui, ça se fait plus vraiment. Ben, tu sais, en fait, c'est fake, là. Genre, il s'est protégé. Vraiment, ouais, c'est ça. Avec une chaise. Et comme dit Nowinski, he was one of the only guys who would take a chair shot to the back of the head, which is stupid. Il était un des seuls gars qui prenait un chair shot à l'arrière de la tête, ce qui est stupide.
On est d'accord.
Oh, puis aussi, tu sais, son move signature, là, de genre de switcher en étoile. Là. Mais tu sais, ça, apparemment, c'est genre la pire chose que tu peux faire pour ta colonne vertébrale. Là. Genre, le lutteur qu'il avait popularisé avant Chris Benoit, puis que Chris Benoit s'était inspiré de lui, ce lutteur-là, il a fini en chaise roulante. Là.
Oh!
Sa colonne vertébrale était finie. Là. Donc, le cas de Chris Benoit fait changer les choses dans le monde de la lutte.
Okay.
Pour la consommation de drogue, de stéroïdes, pour le... acknowledge les commotions cérébrales.
Mm-hmm. Qu'elle soit prise au sérieux.
Ouais, c'est ça. Mais bon, moi, ma théorie, c'est ça. Comme on a dit, il y a beaucoup... Tu sais, il y avait beaucoup de facteurs. Tu sais, je pense que...
L'accumulation.
C'est ça, c'est l'accumulation. Les stéroïdes, le CT, sa dépression. Mais en même temps...
Ça excuse pas.
Ça excuse pas, puis il y a beaucoup... Ben, pas beaucoup, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Ça arrive des hommes qui tuent leur famille, ou des femmes, qui tuent leur famille... sans ces facteurs-là. Fait que, ça arrive. Que les gens l'ont pas vu venir et que c'était une bonne personne à part ça. Mais
je pense à ce que Nancy et Daniel ont dû vivre avec lui, mettons.
Mm.
Ça a vraiment dû être difficile.
Ah,
surtout à partir de la mort de son ami. Mais...
Mm. Ouais, de le voir s'enfoncer comme ça.
Mais oui, il devait pas être gentil.
Non, c'est ça. Nancy, était comme il se pognait sur tout le temps. Il était juste en crise contre tout. Puis... Mais c'est dans le documentaire là, que je vous recommande, là, Dark Side of the Ring, il y a son fils plus vieux, là, David, que il témoigne dans le documentaire. Puis pour lui, c'est comme tellement crève-cœur parce que c'est son père puis c'est son héros.
Ah.
Puis il l'aimait tellement. Fait que c'est comme comment réconcilier ce qu'il a fait avec l'homme qu'il connaissait. Ou je pense que c'est Chavo qui dit, genre, j'aime l'homme, mais j'haïs ce qu'il a fait.
Mm-hmm.
C'est comme... c'est fucked up. Donc, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, je pense que c'est que si ça va pas, faut aller chercher de l'aide. Si Chris Benoit avait consulté quand il était en dépression puis qu'il avait des pensées suicidaires, peut-être que ça aurait pu être évité. Donc, si vous ou un de vos proches a des pensées suicidaires, n'oubliez pas qu'il y a de l'aide. Il y a 1-866-APPEL, donc 1-866-277-3553, qui est la ligne provinciale en prévention du suicide 24 heures sur 7. Voilà.
Aïe, aïe.
Aïe, aïe. Ouais, toute une histoire.
J'étais au bout de mon siège tout le long.
Ah non, c'est vraiment une bonne histoire. J'ai écouté les documentaires, j'étais genre, ben voyons. Puis, tu sais, même le début, là, toute la partie avec genre, woman, puis là, tu sais, genre, j'étais comme, ah, c'est quand même bon.
Des pleurs, de la frustration, de la peine.
Ouais.
C'est fou parce que c'est une de ces histoires où que tu sais pas comment te sentir.
Ouais, parce que...
Tu sais, comme tu dis, c'est proche, tu sais, j'aime l'homme, mais c'est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est inacceptable, c'est inexcusable.
Ouais, mais en même temps, c'est comme, mais c'est pas lui, tu sais.
Non. Puis, tu sais, on peut pas blâmer ça sur personne. Là. Je veux dire, lui, il est pas allé chercher de l'aide. Non, sûrement que ses proches ont essayé de l'aider du mieux qu'ils ont pu, mais qu'ils ont eu de la misère. Ou que... Tu sais, comment tu veux aider quelqu'un qui veut pas s'aider?
Non, c'est ça. Tant que la personne veut pas, money, tu peux... Il y a une limite à ce que tu peux faire.
Les stéroïdes, c'était normalisé. L'autre qui donne les prescriptions à côté. Le pharmacien qui fait pas un petit red flag à quelque part.
Mm-hmm.
À un moment donné...
Et quand même, le médecin, 10 ans de prison, là. C'est qu'il a vraiment, abusé, là. Mais tu sais, dans ça, me semble que c'est rare que les médecins, ils se font prendre à... Tu sais, d'habitude, c'est genre, tu tapes ses doigts de genre l'ordre des médecins, whatever. Mais tu sais, comme au criminel, comme ça.
Mais peut-être que lui aussi, vu que cette mort-là a changé beaucoup de choses, peut-être que cette sentence-là pour ce médecin-là a servi d'exemple aussi pour les autres.
Ouais, ouais, peut-être. Mm.
Ça arrive, ça. Mm. Le juge est comme, OK, moi, je vais citer l'exemple, puis ils vont arrêter de faire ça.
Ouais.
Bref, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est fondé sur absolument rien. OK. Wow!
Ben, je voulais finir sur une note un peu moins déprimante.
Vas-y donc.
Des petites recommandations théâtrales, mais en lien avec l'histoire. Puis en même temps, ben,
quoi?
Je fais des charlottes à mes amis du théâtre. Donc, en janvier 2026, au Denise Pelletier, Théâtre Denise Pelletier à Montréal, il y a la pièce « Merci d'être venu » qui joue. Et c'est incroyable comme pièce. C'est un ami à moi, Gabriel Morin, qui a écrit une pièce sur le suicide. Sur le suicide de son frère, en fait, c'est vrai. C'est vrai, tout ce qu'il dit là-dedans. Mais si vous allez voir ça, pensez pas que vous allez juste être déprimé. Non, non, parce que Gab, c'est un gars d'impro. Mm-hmm. Il vous fait autant rire, pleurer de rire, que pleurer de tristesse. C'est du génie comme spectacle. Fait que si vous allez pas souvent au théâtre, c'est vraiment une bonne occasion. T'sais, vous allez rire, vous allez pleurer. Vous allez, c'est différent de ce que vous pensez du théâtre normalement.
Donc, tu m'en avais parlé de ça.
Ouais. Merci d'être venu en janvier 2026 au Théâtre Denise Pelletier. Et encore une fois, Théâtre Denise Pelletier, en février 2026, Agamemnon in the Ring, qui est une pièce de lutte en alexandrin québécois.
Insane.
C'est du délire total. Vous allez vous taper le cul par terre tellement c'est drôle. C'est mon ami Hilaire Saint-Laurent qui a écrit ça. C'est du génie. Fait que, tu sais, mais c'est vraiment comme un show de lutte, mais théâtre. Fait que, genre, tu peux crier après le monde, genre, oh oui, tu l'es! Quand c'est les méchants, puis là, après ça, c'est les gentils. Ouais! C'est malade. C'est du génie. Donc, deux recommandations théâtrales pour les gens qui aiment le théâtre et même les gens qui aiment pas le théâtre. C'est vraiment des bonnes pièces pour vous.
Pour connaître Hilaire, je connais pas Gabriel, mais Hilaire, il est fucking drôle.
Oui, il est fucking drôle aussi.
Voilà. C'est des très belles recommandations, ça. Merci. Moi, je vais y aller.
Oui, tu vas y aller. On ira ensemble.
C'est ma fête.
Ah, c'est vrai. OK, je te sors pour ta fête. On ira voir Agamemnon.
Mes 36 ans. En février. Fait qu'on se voit en février. Là.
OK, c'est bon. Alors, sur ce, passez un bel été. C'est notre dernier épisode régulier. En juillet, où on prend...
Juste pour l'été, là.
Oui, c'est ça. On prend une pause d'été bien méritée. Mm. Mais on continue quand même sur Patreon. On a préparé des épisodes pour l'été.
Yes.
Donc, si vous vous ennuyez de nous, abonnez-vous à notre Patreon. Si vous devenez une bine de luxe, pour 10$, vous avez accès aux épisodes bonus. Puis je pense qu'on est rendu à 34 en ce moment, plus les deux autres qu'on va sortir pour l'été.
34 épisodes.
Mmh. Ouais, donc, tu sais, pour 10 piastres, vous avez genre 36 épisodes, là. Ça vaut vraiment la peine.
Ah, quand tu t'abonnes, vraiment, t'as accès à tout?
Oui.
Ah!
Ouais. Mais c'est intéressant. 10$ par mois, mais tu sais, tu peux rester abonné le nombre de mois que tu veux. Tu peux t'enclencher.
Ouais, tu peux l'enclencher. Ouais, puis ce qui est cool avec Patreon, c'est que tu peux te désabonner à chaque mois, si tu veux, puis t'en rabonner à chaque, genre, quand tu veux. Là.
Ouais.
Tu peux faire un mois on, un mois off, oui, mais t'as quand même accès aux 34 épisodes.
Oui, c'est ça.
Et cet été aussi, on va continuer dans la thématique de la lutte.
Oui.
Parce que Colic qui s'en passe des affaires ben là-dedans.
Oui, c'est... je sais pas pourquoi, là.
On est en feu. Ouais. Hélène nous apprend bien des affaires.
Ouais.
Puis aussi, on travaille sur un projet extrêmement spécial.
Oui, on va revenir avec des nouvelles à l'automne.
Ça va être un
projet spécial.
Insane! On travaille tellement fort là-dessus. Oui. C'est pour ça que nos vacances sont extrêmement bien méritées. Oui. Vous allez comprendre en septembre ou en octobre.
Oui, à peu près.
Dépendamment de comment on réussit à travailler fort en ce moment. Fait qu'on vous souhaite un bel été, puis les Patreons, on se voit dans genre 2-3 semaines.
Ouais.
On s'entend dans
On s'entend dans 2-3 semaines. Ouais.
Merci beaucoup de nous écouter. On vous aime, puis passez un super bel été. Puis on est quand même là sur les réseaux sociaux, là. On va peut-être être moins quick, mais on a nos téléphones, parce que qui a pas son téléphone? Là.
On va être là.
On est là. On vous aime.
On vous aime. Bine Saint-Jean.
Et bine été.
Oui.
Bye.
Bye. Crime de Bine est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binkou! Bye!
There's nothing more satisfying than finding the perfect green paint for your living room. Except maybe popping open that can of Valspar Ultra and rolling that first smooth stroke on the wall. And there's nothing more satisfying than admiring your freshly painted wall.
Ooh.
Except maybe peeling off the painter's tape to see those crisp edges. But the most satisfying part of all? Valspar Ultra's price tag, starting at $29.98 a gallon. Affordable, durable, available at Lowe's. Price varies by sheen.